Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que votre matinée a bien commencé. La nôtre prend tout son sens maintenant en vous retrouvant chaque samedi de 9h15 à 10h dans Nous Voilà Bien, votre émission conso sur RTL. 3 semaines que nous sommes en reconfinement. Allez, on tient bon. Ça va encore durer un tout petit peu. On va encore vous donner plein d'infos aujourd'hui. Place au sommaire. Nous sommes en trêve hivernale depuis le 1er novembre et ce jusqu'au 31 mars 2021. Mais c'est quoi exactement la trêve hivernale et quels sont les droits des locataires et des propriétaires pendant cette période? Toutes les réponses à vos questions avec maître Romain Rossilandi, avocat spécialisé en droit immobilier. Ce sont les objets déco-tendance de l'année et un joli cadeau que le Père Noël peut apporter au pied du sapin dans un mois. Ce sont les terrariums et ils ont la cote. Peut-on faire soi-même son terrarium et est-ce difficile à entretenir? Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, nous aide à devenir les pros des bocaux. On voulait un peu de douceur dans ce monde de brut, alors quoi de mieux que la tartiflette pour nous remonter le moral? Bah oui alors! Comment la préparer, même si on n'est pas un as des fourneaux? Igori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire, vous livre ses astuces pour régaler toute la famille.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
Pause.
La pause de grand corps malade et la trêve hivernale qui vient de commencer. Maître Romain Rossilandi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier. Vous allez nous éclairer parce qu'on entend tous parler de la trêve hivernale, mais on a du mal parfois à comprendre de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce à quoi la trêve hivernale?
Alors écoutez, la trêve hivernale, c'est très ancien. Ça a été créé à l'initiative de l'abbé Pierre en 1954, donc c'est dans notre code depuis 1956. Donc c'est ce qu'on appelle la trêve des expulsions. Pendant la période qui va du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, il est interdit de procéder à des expulsions locatives, c'est-à-dire concrètement qu'il est interdit d'expulser les locataires manu militari. En revanche, il faut bien comprendre que pendant cette période-là, les propriétaires qui sont par exemple victimes de loyers impayés ont tout à fait la possibilité d'engager des procédures d'expulsion. Voilà, souvent, il y a des amalgames qui sont faits. Les gens pensent qu'on ne peut pas faire de procédure pendant la trêve hivernale. On ne peut pas expulser des gens une fois qu'on a obtenu déjà la décision d'expulsion.
Alors, on va rentrer dans le détail, évidemment, pendant toute cette séquence et éclairer ceux qui nous écoutent. Chaque année, ce sont les mêmes dates?
Alors, ça, oui, normalement, c'est à peu près les mêmes dates. Normalement, c'est du 1er novembre au 31 mars. Ça a été, avant, c'était le 15 mars, mais depuis la loi Allure en 2014, ça a été prolongé jusqu'au 31 mars. Mais surtout, l'année dernière, enfin en 2020, nous avons eu une trêve hivernale absolument exceptionnelle puisqu'elle a été prolongée à cause de la crise sanitaire. Elle a d'abord été prolongée jusqu'au mois de mai et ensuite jusqu'au 10 juillet. Donc finalement, on a eu une trêve hivernale 2020 qui a duré quasiment 9 mois.
Le printemps et le début de l'été, quoi.
C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, c'était presque plus tellement hivernal, c'était une trêve printanière, voire estivale. Oui.
Mais qui était lié finalement à des conditions exceptionnelles.
C'est ça. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que la trêve hivernale protège le locataire, on le comprend très bien, mais c'est aussi un moment, souvent un soulagement pour le propriétaire aussi, qui attend depuis parfois des années de pouvoir enfin récupérer son logement.
Ce qui veut dire que l'année dernière a été compliquée sûrement pour certains propriétaires, puisque cette trêve hivernale a été à rallonge.
C'est évident, moi j'ai au cabinet pas mal de dossiers malheureusement, où on a des décisions d'expulsion donc qui ont été ordonnées déjà il y a quelques années, parfois 2018, c'est l'année 2018, c'est des décisions de justice de 2018 qui ont ordonné des expulsions et qui n'ont pas pu être exécutées compte tenu de la crise sanitaire cet été. Parce que il faut comprendre que la procédure d'expulsion, il y a deux phases. Il y a la phase judiciaire qui vous permet d'obtenir une décision du juge d'expulsion. Et ensuite, il y a la deuxième phase qui est la plus compliquée, qui est la phase administrative. C'est-à-dire que pour exécuter cette décision d'expulsion, si le locataire ne part pas spontanément, il faut obtenir le concours de la force publique, du préfet. Et on peut comprendre que cette année, les préfets étaient très réticents à accorder le concours de la force publique compte tenu de la crise sanitaire. Donc effectivement, il y aura peut-être un effet. Et d'ailleurs, je vous le disais récemment qu'il n'y avait jamais eu aussi peu d'expulsions locatives en 2020, mais et pour cause, avec une trêve hivernale qui a duré 9 mois et des préfets qui n'accordaient pas le concours de la force publique. Voilà, c'est logique. Mais je crains quand la crise sanitaire sera terminée, qu'au contraire, ça va exploser.
Ça, je comprends, parce qu'effectivement, il y a énormément de dossiers en attente qui pourront donc être pris en charge à la sortie. Qui est concerné par cette trêve hivernale ? Tous les locataires, quels que soient leurs moyens ?
Alors oui, tous les locataires, alors qu'ils soient les locataires, par exemple, qui seraient poursuivis pour un payer le loyer, ou des locataires qui seraient arrivés au bout de leur bail, si vous voulez, donc qui auraient reçu congé et qui se seraient maintenus dans les lieux parce que soit ils n'ont pas pu déménager, soit parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Donc ils sont protégés. Maintenant, les gens qui ne sont pas protégés par la trêve hivernale, alors c'est assez récent, c'est depuis la loi Allure de 2018, ce sont les squatteurs. Alors les squatteurs, c'est qui ? On entend aussi beaucoup de choses sur les squatteurs. Mmh. Les squatteurs, ce sont des gens qui sont rentrés dans les lieux par voie de fait, par manœuvre, par malice, par effraction. Donc ça ne peut pas concerner des locataires, parce qu'un locataire, il est rentré dans les lieux avec un contrat de location, vous voyez ? Ça peut pas... Donc depuis la loi Allure, si vous voulez, les squatteurs ne sont plus protégés par la trêve hivernale et en théorie peuvent être expulsés pendant la trêve hivernale.
D'accord. Alors donc ça veut dire que par exemple, si un squatteur ou des squatteurs rentrent dans mon domicile dans les semaines qui viennent, admettons, s'y installent, j'ai toujours le moyen désormais de les expulser même pendant cette période d'hiver.
Alors en théorie oui.
C'est tout un sujet dans les squatteurs.
C'est un sujet très. Moi j'ai défendu pas mal de propriétaires qui étaient victimes de squats, notamment dans la Nièvre, à Saint-Honoré-les-Bains, c'est une affaire qui a fait un traitement médiatique important. Et à la suite d'ailleurs de cette affaire et d'une autre affaire de Théoul-sur-Mer, le gouvernement est intervenu en faisant voter un amendement, si vous voulez, parce qu'il y avait un débat, on ne pouvait pas expulser les squatteurs quand ce n'était pas votre résidence principale, quand c'était votre résidence secondaire, c'est ça qui avait un peu ému l'opinion, et on pouvait le comprendre. Donc le gouvernement a dit, maintenant, on pourra, le domicile est élargi à la résidence secondaire. Sauf que, dans la pratique, ce n'est pas du tout aussi simple. En fait, c'est ce qu'on appelle la procédure administrative d'expulsion, c'est une procédure, c'est une expulsion qui est faite par le préfet et non pas par le juge. Donc, si vous êtes victime d'un squat, vous devez aller porter plainte, prouver que vous êtes bien propriétaire, c'est pas toujours évident parce que certains commissariats vous demandent de justifier de votre titre de propriété, ben vous l'avez pas puisque il est chez vous et c'est squatté. Et ensuite, il y a cette histoire de 48 heures qu'il faut agir dans les 48 heures, tout ça, ça n'existe pas, c'est pas dans le code et c'est une pratique judiciaire. Et après, le préfet, si jamais la police n'intervient pas manu militari, vous devez le saisir, vous devez faire une requête de concours de force publique et le préfet, normalement, à 48 heures avec la réforme pour vous répondre. Mais il y a plein de situations où c'est pas du tout évident de savoir si le squatteur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Parfois, l'occupant a lui-même été victime. On a souvent ça dans des dossiers. On voit, écoutez, moi j'ai signé un bail, regardez, je produis un bail. C'est monsieur Tartampion que je croyais être le propriétaire qui m'a remis les clés. Donc ça, le préfet pourra pas l'apprécier. Vous voyez, il y a des cas beaucoup. Et il y a que le juge qui peut apprécier. Et le juge, combien de temps il met pour traiter ça? Il met 2 ans. C'est ça le problème dans ces dossiers.
Toujours les délais de la justice. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Maître Romain Rossi-Landy. Quels sont les droits des locataires? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour un bailleur pendant cette trêve si le loyer n'est pas payé? On en parlera dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Et puis ensuite, on ira côté verdure avec Pierre Nesman et côté gourmandise avec Ligori Lecomte. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
C'est une tendance de verdure à la maison, le terrarium. Dans un instant, Pierre Nesman, qui est paysagiste, nous expliquera justement comment s'occuper de nos petites plantes sous verre. Et puis moi, j'ai faim et mes fesses vont lui dire merci parce que Ligori Lecomte va nous donner une bonne recette de vraies tartiflettes. Mais pour l'heure, c'est la trêve hivernale avec Maître Romain Rossi-Landy.
Winter is coming.
Winter is coming. C'est vrai que parfois, c'est quand même un peu l'ambiance Game of Thrones entre les locataires et les bailleurs. Et puis, il existe donc la trêve hivernale. On en parle avec vous, Maître Romain Rossi-Landy. Quels sont les droits des locataires? Est-ce que l'électricité, l'eau, le gaz, concrètement, peuvent être coupés pendant la trêve hivernale?
Absolument pas. C'est tout à fait interdit. Le propriétaire ne peut absolument pas se faire justice lui-même en coupant l'eau et l'électricité. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont tentés de le faire quand il y a des dettes de loyer très importantes. Mais non, la trêve hivernale protège également les occupants, il est interdit de couper l'eau, l'électricité et le gaz pendant toute cette trêve.
Est-ce que EDF peut me couper l'électricité? Est-ce que Gaz de France peut me couper le gaz aussi pendant cette période, à défaut du bailleur?
Non, ça s'applique également effectivement aux opérateurs. En sachant d'ailleurs que les opérateurs vous demandent quel est votre nom, ils vérifient pas que vous êtes propriétaire ou locataire, donc le contrat est au nom du locataire.
Ok. Qu'est-ce qui est possible pour un bailleur de faire pendant cette trêve? Parce que si le loyer n'est pas payé et que ça met le propriétaire dans des difficultés financières, il a bien des recours ou est-ce qu'il faut qu'il patiente, qu'il poirote pendant tous ces longs mois?
Alors c'est une bonne question parce que c'est vraiment une croyance que les gens pensent. Effectivement, pendant à tort, il faut surtout agir, il faut pas attendre quand on est propriétaire. Même pendant la trêve hivernale, on peut tout à fait lancer la procédure d'expulsion, c'est-à-dire faire délivrer par huissier de justice un commandement de payer quand il y a 2 mois, 3 mois de retard, si vous voulez. Il faut le faire d'ailleurs parce que c'est le préalable et ça permet parfois de trouver des solutions et d'éviter, si vous voulez, le scénario catastrophe, si vous voulez, avec des impayés qui s'accumulent. Donc il faut surtout pas attendre la fin de la trêve hivernale quand on est propriétaire. Il faut tout de suite prendre contact avec son locataire, lui délivrer un commandement de payer par huissier. Donc les tribunaux fonctionnent pendant la trêve hivernale. Moi, je plaide des dossiers d'expulsion pendant la trêve hivernale. Il y a des décisions d'expulsion qui sont rendues. Simplement, il faudra attendre pour les exécuter, pour obtenir le concours de la force publique, la période estivale, c'est-à-dire la fin de la trêve hivernale.
D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Mon dossier qui est en attente, ou en tout cas la décision de justice, je l'ai. Et dès la trêve hivernale passée, on est dans l'action et l'expulsion locative peut avoir lieu?
Oui, alors il y a des délais quand même à respecter, ouais. Notamment un délai de 2 mois. Il faut délivrer un commandement de quitter les lieux. Attendre 2 mois. Alors ce délai de 2 mois est censé permettre au locataire de retrouver un logement. Mais j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Effectivement, ce qui est important, c'est d'obtenir le concours de la force publique, parce que c'est le préfet qui donne ce concours. L'expulsion manu militari, elle se fait, c'est très désagréable, avec un huissier de justice, un commissaire de police, des témoins, donc c'est très réglementé, et ça prend un certain temps. Et en fonction du profil des occupants, il y a une enquête sociale, si vous voulez, bah, le préfet regarde si l'ancienneté, l'importance de la dette, regarde si le dossier peut être conduit à une expulsion. Et aujourd'hui, on oblige même, et c'est compliqué pour les propriétaires, il faut qu'il y ait une solution de relogement ou même d'hébergement. Et il n'y en a pas, malheureusement. C'est le fond du problème, il y en a très peu. Et du coup, l'État préfère ne pas exécuter des décisions de justice et attendre qu'une solution. C'est souvent le propriétaire qui paye les frais, évidemment.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, en fait, et ce sera ma dernière question. Pendant tout ce temps, parce qu'on a bien compris qu'il y a le temps de la trêve hivernale, donc plusieurs mois, après il y a encore 2 mois qui viennent s'ajouter à ça, après il faut que le locataire ait trouvé un autre logement, oui. C'est le propriétaire qui trinque dans ces cas-là, parce que je pense à ceux, effectivement, qui remboursent des crédits avec le montant des loyers, le propriétaire se retrouve une main devant, une main derrière.
Oui, vous avez tout à fait. Moi, j'ai eu des cas, malheureusement, où le propriétaire ne pouvait plus rembourser son prêt à la banque et la banque a saisi l'appartement. Le locataire est resté dans les lieux et le propriétaire, lui, a perdu son appartement. Donc ça arrive, malheureusement. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que ça arrive. Il n'y a pas que des propriétaires institutionnels. Il y a des propriétaires qui ont, la plupart du temps, c'est des gens qui ont économisé toute leur vie.
Exactement.
Et qui comptent sur le loyer pour arrondir leur fin de mois ou plus pour vivre, même, parfois. Donc, c'est des situations difficiles, mais ils peuvent quand même attaquer l'État. Puisque quand il y a un refus de concours de force publique, on peut se retourner contre l'État et demander une indemnisation. Mais c'est compliqué et la plupart des gens le font pas.
Et puis la fenêtre de tir n'est pas si longue que ça, en fait, en réalité. Hein. Dans le meilleur des cas, c'est 6 mois. Donc effectivement, on sent que les procédures sont longues. Et
Oui, c'est ça. À Paris, moi, j'ai des dossiers de 2018, je vous disais tout à l'heure, qui sont pas encore exécutés en 2020. Qui le seront peut-être en 2021, on espère. Donc parfois avec 3 ans de retard.
Un conseil à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient propriétaires, locataires, on aura bien compris que il faut avoir le sens des responsabilités et en même temps on sait les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Un conseil aux propriétaires aussi qui nous écoutent.
Pour les propriétaires, je pense qu'il faut prendre des assurances. Maintenant, il y a des assurances très bien, loyer impayé. Il y a la garantie visale, c'est l'État qui se porte garant, donc ça fonctionne très très bien. Et les locataires, je pense qu'il faut qu'ils aillent à des agences, il y a la DIL, etc. Dès qu'ils ont des difficultés, il faut qu'ils en parlent. Il faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut joindre son propriétaire, lui dire écoutez, j'ai besoin d'un échéancier. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Moi, je suis avocat, je vois surtout les dossiers qui se passent mal, malheureusement. Mais dans 80% des cas, 90% des cas, j'ai pas de stats, mais ça se passe bien. Il faut discuter, il faut renouer le dialogue, évidemment.
Voilà. Et puis effectivement, pas de politique de l'autruche, ça ne sert à rien. Les dossiers ne font que s'aggraver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Romain Rossi-Landy, de nous avoir éclairé donc sur la trêve hivernale qui posait question. Et grâce à vos réponses, maintenant, on en sait beaucoup plus. Merci à vous. Bon week-end à l'écoute d'RTL.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer.
Bon, je ne sais pas s'il peut faire tout ça pour nous. Mais en tout cas, il ne peut nous parler du jardin d'hiver. Bonjour Pierre Lesman.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Pierre en ce samedi matin. Vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Le terrarium ou le mini jardin sous verre, c'est la plante d'intérieur du moment. Pourquoi ça marche autant cette histoire?
Ce qui est fascinant Flavie dans un terrarium, c'est le fait de pouvoir observer la croissance et l'évolution des plantes dans une structure en verre. En fait, on reconstitue un monde végétal qui est miniaturisé, qui imite la nature et qui est parfaitement autonome. Donc c'est à la fois captivant et décoratif.
Et je vais être tout à fait honnête, je vous pose la question, mais j'en ai un juste sous mes yeux, justement. Et j'aurais des questions à vous poser à son sujet. Et c'est effectivement très joli et fascinant. De quoi est composé un terrarium ?
Alors tout d'abord, le principe du terrarium consiste à créer un milieu clos et confiné. Alors c'est un peu d'actualité. Et dans ce milieu, on va cultiver des plantes. Alors pour cela, il faut un contenant en verre. On peut utiliser des contenants tout simples. Hein. Vous savez, de simples bocaux à bonbons, un grand pot de confiture, une dame Jeanne. Les dames Jeanne, vous savez, ce sont ces bonbons qui servait à stocker les liquides autrefois. Oui. Et on peut aussi trouver des modèles beaucoup plus sophistiqués qui sont assez similaires quant à la forme et au volume aux aquariums. Et à l'intérieur, on va placer du terreau pour permettre aux plantes de pousser, quelques éléments décoratifs, des branches, des roches, des morceaux d'écorce pour imiter la nature et bien entendu des plantes.
Voilà, et tout ça, je peux aller chercher ça dans la forêt, quoi, dans le bois à côté de chez moi, dans
alors,
un parc.
Des mousses, roches, effectivement des branches, des écorces, tout ça, on peut les trouver au fond du jardin. Ouais. On peut aussi, en se baladant, ramasser effectivement quelques éléments de nature.
Oh, génial, on peut faire ça. Dis-nous, on va faire ça ce week-end, c'est trop bien. Vous restez avec nous, évidemment, Pierre Nesman. On a plein de questions à vous poser sur ces fameux écosystèmes sous cloche que sont les terrariums. Ensuite, on vous livrera une bonne recette de tartiflette parce que les températures commencent à fraîchir. A tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Vous avez des patates, vous avez du reblochon, vous pouvez faire une tartiflette. Ligori Lecourte va nous livrer la recette dans un instant. Mais pour l'heure, un petit peu de verdure avec Pierre Nesman.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
Que nenni, parce que ce petit jardin n'est pas comme celui de Dutronc. Il ne sent pas le métropolitain puisque c'est un petit jardin sous verre. Et on en parle aujourd'hui avec vous, Pierre Nesman. Vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Vigitale diffusée sur M6. C'est un véritable écosystème sous cloche. Nous avez-vous confié. On peut le faire soi-même. Donc ça, c'est génial. Alors déjà, il y en a qui se disent, j'ai pas la main verte, mais alors faire un terrarium, inutile de vous dire, Pierre, que ça en stresse certains. Vous nous avez expliqué qu'on peut avoir un bocal, on peut avoir une dame Jeanne, enfin bon, en tout cas, pourvu que ce soit du verre, on met du terreau, on met des mousses, on met des marrons, je sais pas, des trucs qu'on va chercher comme ça dans le bois d'à côté. Mais qu'est-ce qu'on plante là-dedans ?
Alors, on va planter des plantes vertes. Alors, vous savez, le principe du terrarium, c'est en fait le principe d'une serre. C'est un environnement qui est très chaud et dans lequel on va cultiver des plantes exotiques ou tropicales. Alors, ce sont les fameuses plantes vertes ou d'intérieur qu'on trouve dans les jardineries et chez les horticulteurs. Alors attention, quand on va faire son choix, on ne va pas choisir des spécimens à grand développement, mais des sujets dont la silhouette reste naturellement compacte et dont la croissance est très très lente. Alors il y a quelques essences, hein, le phytonia, le pilea, le peteromia, l'elxine, le ficus rampant marche très très bien. On peut aussi utiliser des fougères comme l'adiantum ou l'asplenium et pourquoi pas, dans certains cas, on peut tenter de mettre des mini-orchidées qu'on va également trouver chez les horticulteurs et pourquoi pas des plantes carnivores.
Oh, bah dites donc, mais il faut les nourrir les plantes carnivores.
Alors elles vont se nourrir de petits insectes qui vont graviter autour du terrarium et éventuellement entrer dans le terrarium comme si elles entraient dans un piège.
Et ben justement, comment elles vont rentrer dans le terrarium ? Parce que pour moi, un terrarium, c'est toujours fermé.
Alors, c'est toujours fermé, mais pas définitivement. Effectivement, c'est fermé car c'est à l'intérieur de ce terrarium, dans cette atmosphère confinée, que les feuilles vont évaporer de l'eau. Cette eau va se condenser sur les parois, elle va ruisseler dans le substrat et ça va permettre un arrosage pratiquement automatique. Le système, comme je le disais, est parfaitement autonome. Mais il faut malgré tout garder la possibilité de pouvoir accéder à l'intérieur du terrarium pour enlever effectivement des feuilles jaunes, aérer, changer l'air ou couper des tiges qui deviendraient un petit peu envahissantes.
Ah donc, il faut que je l'aère mon terrarium, moi ? Il est toujours fermé.
De temps en temps, il faut ouvrir la trappe, effectivement, ou le bouchon pour renouveler l'air. Parce que si on a une atmosphère qui est beaucoup trop confinée, on risque d'avoir des excès de condensation. Éventuellement, avec la chaleur, notamment s'il est placé à côté d'un radiateur, la formation de petites algues vertes sur les parois qui peuvent effectivement gêner le développement des plantes.
Mais attendez, il faut que je l'arrose aussi ?
Alors non, puisqu'on vient de l'évoquer tout à l'heure. Et justement, là, en tant que jardinier, pas besoin d'eau du tout parce que la condensation, justement, se produit à l'intérieur de ce terrarium. C'est ce qui va permettre de maintenir une atmosphère humide et aussi d'humidifier le terreau. Donc, on n'arrose pratiquement pas. Ce qui est vrai, c'est assez rare pour un jardinier de donner le conseil de ne pas arroser ses plantes.
Est-ce qu'il y a un endroit idéal pour placer le terrarium ? Est-ce qu'il faut le mettre en pleine lumière ?
Alors oui, pleine lumière, mais pas de soleil direct. Ça veut dire qu'on va le placer devant une fenêtre, alors orienté à l'est, à l'ouest, éventuellement au sud. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir un voilage pour filtrer quelque part les rayons directs du soleil. Et puis, autre petit conseil, ne le mettez pas trop près d'un radiateur. Parce que comme je venais de le dire tout à l'heure, la chaleur à l'intérieur du terrarium favorise le développement d'algues vertes.
Si effectivement mes plantes grimpent, comme c'est le cas du mien, et commencent à vraiment lécher les parois en verre et le couvercle en verre, qu'est-ce qu'on fait? On peut tailler les plantes?
Absolument, là c'est effectivement un des petits entretiens qu'il va falloir faire dans le terrarium, c'est de temps en temps aller couper les tiges, les feuilles qui vont se développer, qui vont prendre le dessus, parce qu'il y a souvent des plantes vertes qui sont un peu plus vigoureuses que d'autres, et donc il faut que celles-ci, on les cantonne, on les maîtrise, et puis effectivement celles qui vont se coller sur les parois, que ce soit des tiges ou des feuilles, eh bien il faut les couper pour permettre à la lumière de continuer à entrer à l'intérieur du terrarium.
Et donc je peux en couper beaucoup? Comment je coupe?
Oui, vous coupez avec une petite paire de ciseaux si vous arrivez à l'introduire à l'intérieur du terrarium, et puis vous coupez carrément au-dessus d'une feuille. Vous pouvez être même assez sévère, car dans le terrarium, cette atmosphère confinée est tout à fait favorable à la croissance des plantes, donc les plantes vertes vont très très vite repousser.
Ah bah génial, bah je vais faire ça aussi ce week-end alors. Et quand les feuilles commencent à jaunir, ça veut dire qu'elles ont besoin d'eau ou elles ont besoin de lumière?
Alors, elles ont besoin de lumière, d'eau pas trop, attention, parce qu'elles peuvent aussi jaunir en cas d'excès d'eau, donc il faut faire très attention, et comme je le disais, pas trop arroser. Et puis un petit détail aussi, Flavie, vous allez faire les vitres, nettoyer les vitres, car à l'intérieur de votre terrarium, vous avez peut-être remarqué, vous avez des traces, des salissures, éventuellement des algues vertes, comme je l'évoquais, il va falloir les nettoyer. Alors pour ça, vous prenez un petit coton démaquillant, vous le fixez au bout d'un petit tuteur en bois, et puis vous commencez à frotter l'intérieur de vos vitres, pas de produit bien évidemment, vous le faites de manière tout à fait naturelle, pour nettoyer les vitres et permettre à la lumière d'entrer à l'intérieur du terrarium.
Allez, dernière question, ça peut durer longtemps?
Ça peut durer très très longtemps. À partir du moment où vous l'avez placé dans une maison en situation lumineuse, ça va durer très très longtemps et ça peut devenir très très joli, avec effectivement la nécessité de temps en temps d'aller tailler vos plantes qui profitent et qui bénéficient de cette atmosphère confinée à l'intérieur de ce terrarium. Pour elles, le confinement, quelque part, il est plutôt bien vécu.
Voilà exactement, ce qui n'est pas forcément notre cas, même si certains manquent un peu de taille, je dirais. Pierre Nesman, merci beaucoup. Vous aimez la tartiflette?
Ah, j'adore. Oui, puis ça, c'est le vrai repas d'hiver.
Ça va nous tenir chaud, exactement. Et c'est Ligori Lecomte qui va nous donner la recette dans un instant. Je vous embrasse, Pierre Nesman. À bientôt.
À bientôt, Flavie. Au revoir.
Salut, Pierre. Joie, mon estomac vous dit merci, pas mes fesses, parce que c'est super calorique quand même, Ligori Lecomte, la tartiflette.
Bonjour Flavie, bonjour.
On s'en fiche des calories là ce matin?
Ah oui, bah alors là carrément, là on est plutôt sur le plat réconfortant, là on oublie les calories.
Pourquoi c'est si réconfortant que ça la tartiflette?
Bah alors en fait, vous avez déjà la période, il y a le froid qui est arrivé, la nuit qui tombe à 17h. Et puis, donc on a vraiment besoin de ça. Et puis, au-delà de ça, bon, on oublie un peu le petit régime de l'été pour rentrer dans son maillot. On passe pas encore à la détox du début d'année. Donc, c'est vraiment le moment parfait pour se faire plaisir, vous voyez, avec ces plats réconfortants.
C'est le moment ou jamais pour se faire une tartiflette. Et dis donc, c'est pas une recette traditionnelle. On a tendance à croire que c'est très ancien et que c'est tradit. En fait, c'est beaucoup plus récent que ça.
Eh ben oui, exactement. En fait, alors, il y a un plat quand même qui est à l'origine de ça, qu'on appelle la pella, qui était un gratin de pommes de terre avec oignons et puis des restes de reblochon. Mais c'est vraiment en 1980 que le syndicat interprofessionnel du reblochon s'est dit « Bon les gars, on n'en vend plus assez là pour trouver quelque chose. Donc on va y ajouter quelques lardons, un peu de vin blanc. » Et puis ça a créé une recette qui a été ensuite mise à la carte de plein de restaurants sur la Clusaz et autres. Et donc voilà, on pense que c'est un plat de grand-mère, mais pas tant que ça.
Eh bien, dans un instant, vous allez nous donner la recette de la tartiflette. Vous avez parlé de reblochon, vous avez parlé de lardons. Oh, ce sera tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL,
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. Vous la sentez, cette bonne odeur de reblochon? C'est la tartiflette.
Dans la vallée du reblochon, les hauts savoyards vous diront: venez nous retrouver, venez rire et chanter. Le reblochon, c'est la santé.
Le reblochon, c'est la santé, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui on va faire une tartiflette. Oui, effectivement, madame, monsieur, les enfants, aujourd'hui c'est tartif, et tout l'intérêt de la tartiflette, c'est donc le fameux reblochon. On peut faire ça avec un autre fromage, Ligori Lecomte, ou c'est sacrilège?
Alors non, alors justement, là il y a toujours eu débat là-dessus, hein, de se dire est-ce que c'est absolument reblochon ou pas. En fait, tartifla, ça veut dire pomme de terre en savoyard, donc on parle pas forcément du fromage quand on parle de l'origine du plat. Mais alors après, il faut bien dire que chaque région, Marois-Liflet, iflette, roquefort iflette, minsterite. De toute façon, dès que vous rajoutez iflette à la fin, vous pouvez faire une nouvelle version.
vous avez essayé, vous, la maroilles iflette?
Ah oui, de toute façon.
Trop bon.
On peut essayer avec d'autres fromages, hein, si vous n'avez pas trouvé de reblochon dans vos petites courses, ou vous testez avec d'autres fromages, ça marche aussi et c'est assez efficace.
Et dites-moi, on peut mélanger aussi les fromages ou pas?
Alors non, alors moi je ne mélange pas trop, mais après pourquoi pas, hein, une tartiflette de trois fromages, ça serait assez nouveau. Mais bon, là, après si vous voulez vraiment rendre hommage aux ancêtres et aux créateurs du reblochon, vous pouvez le faire de façon traditionnelle. Je sais que le reblochon, ça sera déjà très très bien.
Très bien. Comment on choisit bien son fromage?
Alors en fait, vous avez une petite pastille, une petite étiquette, vous savez, sur le reblochon, qui apparaît notamment un peu plus quand il commence à cuire et à fondre dans le four. En fait, si vous avez une petite étiquette rouge, c'est que c'est un reblochon qu'on appelle laitier. C'était fait dans une laiterie avec des laits de plusieurs élevages. Alors par contre, si vous avez une petite étiquette verte, là c'est un reblochon qu'on appelle fermier, donc qui a été fait directement à la ferme avec le lait d'un seul troupeau. Et donc c'est un gage de qualité supérieure quand vous le choisissez.
Donc on cherche ce fameux petit logo, cette fameuse petite étiquette. Dans la recette, on laisse la croûte du fromage ou pas?
Alors oui, surtout on la laisse. Une fois gratiné, tout le monde va se battre pour l'avoir. En tout cas moi, c'est mon cas, c'est un véritable délice d'avoir ce petit côté croustillant. Donc surtout, on la laisse. Ouais.
Bon, alors, on n'a pas besoin d'être un cordon bleu, c'est un jeu d'enfant la tartiflette.
Oui, bah, c'est aussi ça qu'on cherche de toute façon sur les plats, un petit peu de la période. On mettra les petits plats dans les grands pour fin décembre, mais avant ça, on cherche quelque chose de facile, de rapide, et puis surtout de manger ça ensemble à la maison. Quoi.
On y va alors? J'ai besoin de quoi? De patates?
Alors, des patates, surtout, hein, 1,5 kg. Ensuite, un reblochon. Ouais, voilà. Alors moi, je vous donne la recette pour à peu près 6 personnes. Chair ferme, 1,5 kg, 500 grammes de reblochon. Alors une belle poitrine fumée ou bien des lardons, si ça vous embête de tailler tout ça, mais donc 150, 200 grammes de lardons fumés. 10 à 20 centilitres de crème fraîche liquide. Un verre de vin blanc sec. 2 oignons. Un petit peu d'huile, ensuite du gros sel, un peu de poivre blanc, puis alors ceux qui veulent rajouter un petit peu de muscade, c'est possible aussi. Donc voilà pour les ingrédients.
Bon, je fais quoi?
Alors, donc premier truc à faire, on va s'occuper des pommes de terre. On va les mettre dans un faitout avec de l'eau à hauteur, du gros sel. Et ça, on va le faire cuire pendant 20 minutes. J'insiste bien là-dessus, on met toujours les pommes de terre départ eau froide et pas eau chaude. Si vous les mettez dans de l'eau chaude comme des pâtes, en fait, elles vont un peu exploser pour imaginer un peu la chose. Et en fait, elles vont se gorger de flotte et elles auront moins de goût. Donc surtout, toujours départ eau froide pour les pommes de terre. Ensuite, dans votre poêle, vous allez donc avoir vos oignons émincés. On va récupérer les lardons et on va faire revenir ça jusqu'à ce que les oignons soient bien translucides, vos lardons bien colorés. Moi, la petite astuce que je fais pour colorer un petit peu les oignons, une toute petite cuillère de miel, voyez, comme ça, ça va vraiment bien les colorer, ça va être très très bon. Donc vous avez ça dans votre poêle et puis alors une fois que ça a bien doré, on va déglacer avec un verre de vin blanc sec pour décrocher un petit peu les sucs qu'il y a au fond de la poêle. Gratter un petit peu tout ça et tout récupérer pour garder dans notre tartiflette. Et à ce moment-là, je vais mouiller, moi, avec ma crème. C'est ce que j'aime bien faire, c'est le mettre à ce moment-là. Comme ça, en fait, ça va déjà infuser dans la crème. Vous voyez, ce mélange lardon fumé, oignon. Donc, on met la crème là. Ensuite, on le laisse reposer tranquillement. Le temps de préchauffer son four à 200 degrés. Le reblochon, là, il y a deux écoles. Vous faites comme vous voulez. Soit vous le taillez en longues lamelles, soit vous l'ouvrez en deux. Puis comme ça, vous avez les deux sphères de reblochon qui peuvent être posées après sur votre plat. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Et vous écrasez un petit peu de poivre blanc sur le côté. Une fois que vous avez tous vos éléments, bah écoutez, très facile, hein, dans votre plat à four, il vous restera à mettre l'appareil deux écoles. Il y en a qui alternent couches de pommes de terre, lardons, oignons et qui recommencent. D'autres qui mettent toutes leurs pommes de terre au fond du plat, qui répartissent leur mélange oignons, lardons, crémés dessus. Et le poivre, bien entendu, qu'on a un petit peu concassé. Et puis alors après, vous mettez vos petites lamelles ou vos morceaux de reblochon dessus, bien répartis, et vous enfournez ça pendant environ 30 minutes, 40 minutes. De toute façon, le secret là, c'est que votre croûte de reblochon soit bien gratinée, et puis il vous restera plus qu'à, pour vous donner bonne conscience, mettre une petite salade verte à côté, vous voyez, pour accompagner tout ça. Un petit verre de roussette de Savoie avec modération, et puis ce sera parfait pour ce plat convivial.
Oh là 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 là, j'y étais là, vraiment j'y étais, et j'y serai, parce que je vais la faire cette recette.
Vous m'avez
vraiment donné envie. Merci beaucoup, Ligori, et on peut se faire aussi, on peut les faire au reblochon.
Ah oui, bien entendu.
Vous savez de quoi je parle?
Ah oui, c'est gros bisous au reblochon.
Des gros bisous au reblochon. On s'en fout de toute façon au stade où on en est.
Hein.
Merci beaucoup pour cette recette qu'on retrouve donc
Merci
sur nos réseaux sociaux. Et sur le site, évidemment, cuisineaz.com qui accompagne tous mes week-ends. Sachez le Ligori, le compte. Merci Ligori, je vous embrasse. C'est passé vite, nous voilà bien, c'est déjà fini. Retrouvez tous les conseils de nos invités en replay sur RTL.fr ou en podcast sur les plateformes dédiées. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine, 9h15, dans Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, régalez-vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.